France Inter.
Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. C'est un modèle qui s'est épuisé et qui ne tient pas ses promesses. Le gouvernement tourne la page des centres éducatifs fermés, censés être la dernière alternative pour les mineurs délinquants avant la prison. Ils seront remplacés par des foyers où la priorité, on le verra, sera donnée à l'éducation. Des cambrioleurs qui utilisent un monte-charge pour passer par la fenêtre, ça vous dit quelque chose? Le scénario du vol de bijoux au Louvre figurait dans un audit de sécurité réalisé il y a quelques années, on va y revenir. Votre facture d'électricité va-t-elle baisser? Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Céline.
Le ministre de l'économie étudie en tout cas de possibles baisses de taxes.
Oui, alors un ministre tout en nuances hein, quand même. Roland Lescure parle de baisses potentielles, mais c'est vrai qu'il y a des pistes à court, moyen et long terme.
On détaillera toutes ces pistes avec vous Mathilde tout à l'heure. On ira aussi à Taïwan qui met 40 milliards de dollars sur la table pour se préparer en cas d'invasion de la Chine. Et puis dans Lyon, où était organisé un job dating entre employeurs pour faire se rencontrer des sociétés qui licencient et puis des sociétés qui embauchent.
S'il y a des gens qui vont se retrouver sans emploi, pouvoir directement les récupérer, éviter de les laisser sur le carreau, et même s'ils n'ont pas forcément les compétences pour notre travail, nous on les prend, on les forme.
Reportage à suivre à Tonnerre, au programme aussi de ce 13-14, les sorties cinéma de la semaine, avec le grand retour de Zootopie, la carte blanche de Stéphane Escher qui nous emmène aujourd'hui au Québec, et puis le business des marchés de Noël de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquentés, ce qui pose quelques soucis. N'hésitez pas à intervenir, 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Voilà un peu plus de 20 ans qu'ils sont le symbole souvent décrié de la politique répressive à l'écart des mineurs délinquants. Les centres éducatifs fermés sont sur le point de disparaître. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé dans la matinée. Les CEF seront remplacés par des foyers d'éducation renforcés. On va voir dans un instant ce que ça veut dire concrètement. En tout cas, cette annonce du garde des Sceaux répond aux attentes des éducateurs qui interviennent dans ces centres. Écoutez Marc Hernandez, c'est le secrétaire national du SNPES. PJJ-FSU, c'est l'acronyme du premier syndicat des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
Fermer ces structures qui, dès le départ, étaient vouées à ne pas fonctionner, est une bonne nouvelle pour nous. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, à un plus haut degré de fermeture et de coercition, ça mène davantage de mal-être, des problématiques psychiques, physiques chez ces jeunes et des situations de violence. Tant d'ailleurs du côté des jeunes, parce que ça fait l'effet cocotte-minute, que vis-à-vis des adultes, parce que c'était des personnels qui n'étaient pas toujours très bien formés. Il y avait des phénomènes aussi de violence de la part des adultes et des situations où c'était une violence généralisée dans ces structures. Alors nous, on est favorable à la fin progressive des centres fermés si c'est un redéploiement de moyens sur l'éducatif.
Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli cette réaction positive, on vient de l'entendre, des éducateurs. Finalement, pourquoi ça marchait pas, ces centres éducatifs fermés?
Eh bien, ces centres qui accueillent quelques 700 jeunes délinquants aujourd'hui ne sont ni fermés ni éducatifs, a résumé Gérald Darmanin. Il y a autant de fugues que dans les foyers classiques, autant de récidives à la sortie, alors que les CEF coûtent 25% plus cher. Une place coûte 100 000 euros pour 6 mois et que les juges des enfants ne trouvent souvent pas de place en foyer. Le ministre de la justice veut donc tourner la page. Les 7 centres qui doivent être livrés d'ici 2 ans deviendront des foyers comme les autres, des foyers d'éducation renforcés, tout comme les 19 CEF publics d'ici mars prochain. 39 centres fermés sont gérés par des associations. Il n'y aura pas de rupture de contrat, mais des discussions pour une conversion progressive.
Et est-ce qu'on sait, Sarah, à quoi va ressembler le nouveau dispositif?
L'objectif est de mettre un professeur dans chaque foyer. Une quarantaine de profs vont être recrutés directement par le ministère de la justice. Ils pourront donc assurer la scolarité, y compris pendant les vacances de l'éducation nationale. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les enfants en centre éducatif fermé ont moins de cours qu'à l'extérieur. L'accent sera mis sur la santé mentale et les addictions. Le ministre veut aussi interdire les téléphones portables dans ces foyers, ce qui fait moins l'unanimité. Le syndicat d'éducateurs qu'on a entendu préférerait que l'usage du téléphone soit encadré par une politique éducative et rappelle que les chambres des mineurs ne peuvent pas être fouillées.
Merci Sarah Guibaudeau, service police-justice de France Inter, Gérald Darmanin, qui annonce par ailleurs, et là on quitte le volet social, une opération de fouille massive dans les prisons. Toutes les cellules seront fouillées d'ici la fin de l'année, promet le ministre de la Justice sur RTL. Hier, une opération a été menée dans la maison d'arrêt de Nanterre, où 70 téléphones portables ont notamment été saisis. Des gardes à vue prolongées pour les 4 personnes interpellées hier, des bijoux qui restent introuvables et des éléments accablants qui continuent de s'accumuler pour le musée du Louvre. L'enquête se poursuit sur le cambriolage commis le mois dernier, mais voilà qu'on apprend que le scénario figurait dans un audit de sécurité réalisé en 2018. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Il était écrit que des cambrioleurs risquaient d'utiliser un monte-charge pour s'infiltrer dans le musée.
Ah oui, aucun détail n'avait fuité de cet audit, juste qu'il était accablant selon plusieurs sources. Là, avec les révélations de nos confrères du Monde, on voit que cette expertise sûreté était allée jusqu'à imaginer effectivement le scénario catastrophe de la nacelle et de l'accès direct à la galerie Apollon et ses joyaux de la couronne. On sait depuis le cambriolage que l'effort avait porté sur la protection directe des bijoux, des colliers et autres diadèmes, avec l'installation des protections en verre, qui on l'a vu d'ailleurs, n'ont pas résisté à de simples disqueuses électriques grand public. Mais donc, le scénario de la nacelle est passé visiblement aux oubliettes. L'audit avait été commandé par l'Union des grands joailliers français après une série de braquages place Vendôme et par la préfecture de police de Paris. Cela concernait donc également le musée du Louvre. C'était le préfet de police Michel Delpuech qui en était le destinataire. Un préfet, souvenez-vous, limogé à quelques mois de la retraite en mars 2019 pour cause de crise des gilets jaunes et affaire Benalla. Dans tous les cas, nous confiait une source policière ce matin l'installation de plots sur les trottoirs quai de Seine pour empêcher les camions nacelles de se garer relève exclusivement d'une décision conjointe de la mairie de Paris et de la direction du Louvre.
Les précisions d'Emmanuel Leclerc. Merci beaucoup. Faut-il y voir un léger assouplissement dans la position du Kremlin ? La Russie fait état de certains points positifs dans le plan américain visant à régler le conflit en Ukraine et annonce par ailleurs que l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, viendra à Moscou la semaine prochaine pour en discuter avec Vladimir Poutine. En revanche, pas question d'accueillir quelqu'un d'autre à la table des négociations. Les efforts des Européens sont inutiles, assure le Kremlin, alors que les 27, justement, tentent toujours de se faire entendre. Un débat prioritaire était d'ailleurs organisé ce matin au Parlement européen réuni à Strasbourg. Vous y avez assisté. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
L'occasion pour les Européens d'exprimer leurs doutes sur l'équilibre de ce plan de paix proposé par la Maison-Blanche.
Effectivement, dès son introduction devant les eurodéputés, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, émet d'emblée d'importantes réserves.
Tout accord doit assurer une sécurité réelle à l'Ukraine. C'est une nation souveraine, donc il ne peut y avoir de limite fixée à la taille de son armée. Cela rendrait le pays vulnérable à de futures attaques. C'est aussi un enjeu de sécurité européenne.
Hors de question d'accepter ce plan en l'état, tonne la gauche européenne, Iratxe García Pérez pour les sociodémocrates.
Le plan si mal nommé dit de paix par Trump et Poutine n'est pas un plan de paix. C'est un plan de capitulation qui trahit nos valeurs.
Il n'y a guère que l'extrême droite, représentée par la Hongroise Kinga Gál, en l'absence du président des Patriotes pour l'Europe, Jordan Bardella, qui salue ce plan Trump.
Une chance unique s'offre à nous aujourd'hui, une chance de paix, une chance qui probablement ne se représentera pas à l'avenir. Il est donc essentiel de ne pas passer à côté.
Un plan sur lequel les Européens n'ont pour l'instant eu aucune prise.
Merci Fabien Cazot en direct depuis Strasbourg. Partons maintenant au Proche-Orient où les cessez-le-feu à Gaza et au Liban semblent plus fragiles que jamais et où l'armée israélienne vient de lancer une nouvelle opération d'envergure. Thibault Lefebvre, vous êtes notre correspondant à Jérusalem, opération qui concerne le nord de la Cisjordanie occupée.
Ce que l'on sait, selon plusieurs sources palestiniennes sur place, c'est que cette nouvelle opération militaire a commencé vers minuit, que des véhicules blindés sont entrés dans la ville de Toubas, c'est au sud-est de Jenin, pas loin de la vallée du Jourdain, que des hélicoptères ont été mobilisés, que les Israéliens ont distribué des tracts à la population précisant que la région était devenue à leurs yeux un refuge pour le terrorisme et que des Palestiniens de la ville voisine de Tamoun ont été arrêtés. Le témoignage sur place d'Alaret Al-Housni, C'est un journaliste palestinien de l'agence de presse Wafa.
Des maisons ont été perquisitionnées, des familles ont été expulsées. Ces maisons sont désormais des centres d'interrogatoire et des casernes. On ne connaît pas encore le nombre de personnes qui ont été arrêtées pour être interrogées par les forces d'occupation.
La zone est en état d'urgence, les écoles sont fermées, les déplacements déconseillés, l'eau est coupée par endroits. Les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique affiliée à l'Iran et dominante dans cette région, se disent prêtes à riposter. Ce nouveau coup de force de l'armée israélienne pourrait durer plusieurs jours. Il s'inscrit dans la continuité de l'opération Mur de Fer lancée au début de l'année dans les camps de réfugiés de Jenin et de Tul Karem.
Et pendant ce temps, merci Thibault Lefebvre, les tensions s'accroissent encore un peu plus autour de Taïwan, que Pékin revendique de plus en plus clairement. Le retour de Taïwan dans le giron de la Chine est un enjeu majeur, a dit Xi Jinping à Donald Trump lors d'un échange téléphonique au début de la semaine. Et la réaction de Taïwan n'a pas tardé. Le gouvernement veut augmenter le budget de son armée de 40 milliards de dollars sur les 8 prochaines années. Jules Bois, vous êtes sur place.
Avec ce budget record de plus de 3% de son PIB, l'objectif est d'obtenir des systèmes de défense capables de protéger Taïwan en cas d'attaque de son voisin chinois. Les détails n'ont pas été annoncés, mais lors de sa présentation, le président taïwanais a été clair sur ses intentions.
Ce budget est un investissement nécessaire pour faire face à la menace que représente la Chine. C'est un investissement pour la paix et pour la sécurité de Taïwan. Ce budget n'atteint pas encore nos objectifs de 5%, mais nous espérons sincèrement que les partis d'opposition soutiendront cette initiative.
Si le président espère obtenir le soutien des partis de l'opposition, c'est parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement qui décidera d'adopter ou non cette proposition de budget. Le principal parti de l'opposition parle déjà de risque d'endettement et le président du TPP, le deuxième parti d'opposition, dénonce l'absence de concertation.
Nous soutenons sans équivoque une augmentation raisonnable du budget de la défense de Taïwan. Mais ni le public, ni les législateurs n'ont été informés au préalable des détails. Nous devons rappeler à l'administration Lai-Ching 2 qu'elle ne doit en aucun cas faire obstacle à la démocratie taïwanaise.
Pour tenter d'apaiser les désaccords, le ministre de la Défense taïwanais promet que ce budget permettrait de générer 11 milliards d'euros de revenus et de créer 90 000 emplois.
Les précisions de Jules Bois, correspondant de France Inter à Taïwan. Et puis des eaux qui submergent les rues des villes et qui atteignent parfois le premier étage des maisons. Des pluies torrentielles touchent depuis plusieurs jours le sud de la Thaïlande. Les secours font état de 33 morts et de milliers de personnes déplacées. Les pluies de la saison des moussons rendues plus extrêmes en raison du changement climatique.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
Vous connaissez certainement le job dating, ces rencontres organisées pour permettre aux demandeurs d'emploi de se faire connaître auprès d'employeurs potentiels. Eh bien voici sa déclinaison pour les entreprises. C'est une initiative, une première, menée par le département de Lyon, hier à Tonnerre, où s'est rendu Fanny Guelb. Des patrons qui risquent de licencier ont rencontré d'autres patrons qui, eux, cherchent à recruter.
Vincent Guiblin fait partie des dirigeants qui ont répondu à l'appel de la préfecture. Il dirige Saviplast 89, une entreprise qui fabrique du plastique.
On a une baisse d'activité significative sur 2025. La première priorité, c'est de reconstituer cette perte de chiffre d'affaires et de conserver nos salariés quoi qu'il arrive.
S'il ne doit pas se séparer dans l'immédiat de ses salariés, le patron préfère anticiper.
On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et la priorité, c'est que les gens puissent travailler et puis payer leurs factures et nourrir leur famille, ça c'est sûr. Donc d'avoir des opportunités et pouvoir se rencontrer dans ce cadre-là, c'est important en fait.
Il donne ses coordonnées à Elisabeth Poulain, la directrice des ressources humaines de l'entreprise Verpac, est à la recherche d'une petite dizaine d'employés.
S'il y a des gens qui vont se retrouver sans emploi, pouvoir directement les récupérer, éviter de les laisser sur le carreau, et même s'ils n'ont pas forcément les compétences pour notre travail, nous on les prend, on les forme.
Ces rencontres, c'est aussi une manière d'éviter la case France Travail pour les salariés concernés et donc de ne pas accentuer le chômage qui est autour de 7% dans Lyon.
C'est devenu un outil de réactivité parce que ça veut dire qu'on est prêt.
Mourad Youbi est en charge du travail à la préfecture.
Même si demain une grosse entreprise a décidé de fermer, on est prêt à reclasser les salariés parce qu'on a cet outil-là, quitte à changer complètement de métier, mais on leur donne les opportunités de retrouver du boulot.
Lors de la première édition, ce sont 150 personnes qui ont pu retrouver un emploi.
reportage de Fanny Gelbe de la rédaction d'ici Auxerre, ex-France Bleu. Le bonus écologique pour les voitures électriques va être maintenu et augmenté l'année prochaine, annonce du ministre de l'économie Roland Lescure, qui était ce matin l'invité de France Inter, jusqu'à 5 700 € pour l'achat d'un véhicule fabriqué en Europe. Roland Lescure qui va aussi se pencher sur nos factures d'énergie. À la demande du Premier ministre, Sébastien Lecornu demande à son ministre de travailler à des scénarios de baisse du prix de l'électricité. Alors Mathilde Dehémy, on vous retrouve. Quelles sont justement les marges de manœuvre ? Alors,
pour simplifier, il y a deux axes. D'abord, un moyen et long terme, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce vers quoi va la France en matière de transition écologique, développer le durable, s'appuyer sur le nucléaire, bref, renforcer notamment l'électrification sur le thermique. Sans cesse repoussé, très attendu des professionnels, ce plan devrait aboutir à Noël. Le temps, dit encore ce matin le gouvernement, de consulter les parlementaires. Dedans, il y a des pistes pour baisser les factures, pour suivre les politiques, pour basculer en voiture électrique ou pompe à chaleur. Car plus on produit en électrique, plus la facture à terme baissera, dit par exemple l'ancienne ministre et députée Agnès Pannier-Runacher. Elle ajoute que le prix de fourniture de l'électricité a baissé depuis la crise énergétique, mais pas les taxes. Et on arrive là à notre deuxième axe, le court terme, avec un levier fiscal qui est actuellement dans le budget. Tiens, notre facture d'électricité est composée de TVA, de taxes sur la distribution et de ce qu'on appelle les assises, taxes qui pourraient donc baisser à condition de compenser ailleurs, prévient Roland Lescure. De combien ? Bercy ce midi ne répond pas, laisse se dérouler le débat parlementaire. Mais le gouvernement assure ce midi que baisser la facture de l'électricité ne fera pas monter celle du gaz.
Merci Mathilde Dehémy, Service Économie de France Inter. Le gouvernement qui mène aussi la bataille contre les plateformes de vente en ligne et leurs dérives. L'État réclame la suspension de Shein pour une durée de 3 mois. L'audience était prévue ce matin devant le tribunal judiciaire de Paris, mais après une petite demi-heure, l'audience a finalement été renvoyée. Alexis Morel à la demande de l'État.
Oui, surprise à midi quand l'avocat représentant le gouvernement a demandé un peu plus de temps, arguant que le dossier n'était pas complet, qu'il n'avait pas reçu toutes les pièces des parties adverses. Mais pour les avocats de Chine, venus en force, cela reflète surtout l'embarras des pouvoirs publics qui ont pourtant initié cette procédure, annoncée, disent-ils, dans la presse il y a 15 jours à peine. Mais ce que les représentants de la plateforme chinoise ont surtout retenu ce matin, ce sont les quelques mots de la procureure. Dans les maigres échanges qui ont pu se tenir avant le renvoi, elle a d'ores et déjà annoncé que le ministère public ne soutiendrait pas, quoi qu'il en soit, la demande de blocage de Chine en France. Alors sans expliquer pourquoi pour l'instant, mais ça c'est déjà un premier revers sérieux, un premier avertissement pour le gouvernement sur l'issue potentielle de la procédure. Mais tout se jouera donc lors de la prochaine audience, le vendredi 5 décembre.
Alexis Morel au tribunal judiciaire de Paris avec les moyens techniques de Florent Bujon. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là pour Chine, puisque la Commission européenne lui demande des comptes également, car la plateforme peut présenter un risque systémique pour les consommateurs dans toute l'Union européenne, dit Bruxelles, alors que le Parlement européen, de son côté, souhaite une suspension plus rapide des plateformes en cas de violation grave du droit de l'Union européenne. Ils ont fait 10 jours de trajet entre leurs forêts du nord-est de la République démocratique du Congo et la France pour pouvoir témoigner à la barre. Parole inédite ce matin à la Cour d'assises de Paris. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez le procès de Roger Lumbala pour complicité de crimes contre l'humanité. Cet ex-rebelle congolais est accusé d'avoir laissé ses troupes armées commettre des exactions contre les populations du nord de la RDC, notamment contre les minorités pygmées Bambouti. Deux membres de ces communautés ont donc été entendus tout à l'heure sur les sévices qu'ils ont subis au début des années 2000.
Oui, tour à tour, ils s'avancent vers un micro ajusté à leur petite taille et racontent les tirs, les bombes, la fuite dans la forêt à une vingtaine de kilomètres où ils sont rattrapés. Là, les viols de la tante et de la sœur, de celui qui est aussi chef coutumier de sa communauté. Ma sœur était enceinte, presque au bout de sa grossesse. Deux militaires nous gardaient, mon père et moi, pendant qu'un troisième la violait, puis ils ont échangé leur place. Ces sévices sexuels vont causer une hémorragie massive. Sa sœur meurt après 3 jours d'agonie. Notre campement avait été pillé, on n'avait plus de machettes, plus d'outils pour creuser une tombe digne. On l'a enterré dans le trou d'un animal sauvage, se désole encore la victime. Lui-même a été tabassé, traité comme un animal, poursuit-il, forcé à porter des charges lourdes sur des kilomètres par ses militaires. Des militaires appelés les effaceurs, du sinistre nom d'opération Effacer le tableau, lancé par l'accusé Roger Lumbala pour pouvoir prendre le pouvoir, assure encore la victime. Opération dont les victimes Bambouti ont particulièrement fait les frais, car beaucoup leur prêtent des pouvoirs magiques dont ils espèrent récupérer les vertus tue par le viol des femmes, les mutilations des hommes ou enfants et même du cannibalisme. À l'audience, le chef coutumier soupire. Si j'avais vraiment eu ces pouvoirs magiques, j'aurais pu chasser ces militaires.
Récit d'audience signé Charlotte Piret. La Cour de cassation va se prononcer cet après-midi sur le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Dernier recours de l'ancien président de la République dans ce dossier où il a été condamné à un an de prison, dont 6 mois ferme. On en vient à cette erreur de casting qui pose question au sein de la Cour nationale du droit d'asile, chargée d'examiner les recours des demandes d'asile. Un ancien général de l'Armée-Terre y avait été nommé juge assesseur il y a un an. Il s'appelle Thomas Toussaint. Il avait figuré par ailleurs sur une liste du Rassemblement National aux dernières élections régionales avant que le RN ne prenne ses distances avec lui, jugé trop extrémiste. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Alors la Cour assure aujourd'hui qu'il ne siégera plus, notamment parce qu'il a tenu des propos pro-russes, comme l'avait révélé le média en ligne Les Jours. Mais beaucoup s'interrogent tout de même sur cette étonnante nomination.
Alors du côté de la direction de la Cour Nationale du Droit d'Asile, on estime aujourd'hui que cette nomination était un accident, que le vice-président du Conseil d'État, qui nomme les juges assesseurs, n'avait peut-être pas toutes les informations en main au sujet du dénommé Thomas Toussaint, alors qu'en réalité tout était déjà accessible à l'époque en ligne. Un juge qui vient de quitter ses fonctions à la Cour, lui, y voit plutôt le signe d'une volonté d'entrisme de la part de l'extrême droite. Il y a 2 ans d'ailleurs, l'un de ses collègues avait carrément été révoqué après la découverte de publications anti-réfugiés, islamophobes et anti-LGBT. Alors bien sûr, les magistrats sont soumis à une obligation d'impartialité, mais les partisans d'une ligne dure tenteraient-ils de placer leur pion à l'intérieur du système ? En tout cas, les avocats entre-murmurent les noms des juges les plus hostiles. Le droit d'asile, on le sait, est désormais ouvertement remis en cause par les politiques de droite et d'extrême droite. Alors peut-être cherche-t-il à peser de l'intérieur ? Sans effet, en tout cas pour l'instant, puisque la France n'a jamais protégé autant de réfugiés, plus de 70 000 l'an dernier, sans doute encore un peu plus cette année.
Les précisions de Simon Le Baron. Merci Simon. Et puis un dernier mot d'actualité judiciaire, puisque la Cour d'appel de Caen a décidé de laisser la vie sauve à Gamin, ce sanglier domestiqué dont on vous parlait ce matin sur France Inter, adopté par une famille de crûlés dans l'Orne, ce qui n'est pas autorisé par la loi. L'Office français de la biodiversité avait saisi la justice, qui avait ordonné en première instance son euthanasie, ses parents adoptifs, entre guillemets, avaient fait appel et ils ont été entendus aujourd'hui. Écoutez, Rogan Pouillet, c'est le maître du sanglier.
Ça fait vraiment plaisir. C'est là que je me dis qu'il en a vie de tous les jours, il faut se battre, la preuve. Honnêtement, c'est vraiment un membre de la famille. Vous savez, c'est comme tout animal lorsqu'on est proche de ces animaux comme ça. Surtout, bon, il était marcassin. Maintenant, c'est vrai que c'est un beau pépère. Il faut le dire ce qu'il est, mais c'est vraiment un membre de la famille. Donc, ça m'aurait vraiment. J'aurais été vraiment déçu qu'il soit euthanasié ou même s'il fallait qu'il aille ailleurs. Mais aujourd'hui, je peux le conserver. C'est parce qu'ils ont vu que dans tout ce que je racontais, j'avais fait vraiment des choses correctement pour lui. Je me suis pas battu pour rien.
Voilà la satisfaction du maître de Gamin, le sanglier de l'Orne au micro de nos confrères d'ici Normandie. Allez, maintenant, place aux sorties ciné. Et c'est avec vous comme chaque mercredi. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Céline.
Et on commence avec le traditionnel Disney de Noël, synonyme sans doute de carton au box-office comme toujours. 9 ans après Zootopie, voici donc la suite. Come on, get
on up. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on fait une bonne équipe ?
Bien sûr.
J'aimerais simplement savoir ce qu'on doit faire pour le prouver à nos chers collègues.
On avait quitté Judy la Lapine et Nick le Renard en plein triomphe. La ville de Zootopie retrouvait sa quiétude après des semaines de panique et de haine entre espèces animales. Dans ce nouveau film d'animation produit par Disney, on entend Shakira aussi pour la BO. Judy et Nick sont toujours collègues dans la police de Zootopie, mais leur chef leur ordonne de suivre un programme de thérapie pour coéquipiers en crise. La suite, que je ne révélerai pas bien sûr, est prétexte à de nombreux morceaux de bravoure visuelle et narratif, confirmant la puissance de cette franchise pour enfants, mais pas que. Les dialogues et l'intrigue sont en effet suffisamment efficaces pour ne pas laisser les parents sur le bas-côté. Et ça, on aime Céline.
Bah oui, tant mieux pour eux, effectivement. À l'affiche également Vie privée avec Jodie Foster et Daniel Auteuil.
Oui, Jodie Foster, la plus francophone des comédiennes américaines, a accepté l'invitation de la réalisatrice Rebecca Zlotowski pour interpréter le rôle de Liliane Steiner, psychiatre parisienne très perturbée par la disparition d'une de ses patientes.
C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout des 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter.
En coécrivant son scénario avec la romancière Anne Berest, Rebecca Zlotowski met ici l'accent sur le mystère et le suspense avec cette histoire de psy qui devient enquêtrice un peu malgré elle. L'ensemble est filmé avec classe, mais j'ai personnellement éprouvé un grand sentiment de déjà-vu devant cette intrigue à tiroir. Et surtout, attention, unpopular opinion, comme disent les jeunes sur les réseaux sociaux. Je trouve que le jeu de cette immense actrice qui est Jodie Foster sonne dramatiquement faux dans la majeure partie des scènes de vie privée.
Si vous voulez vous faire une opinion, ça s'appelle donc Vie privée. Vous nous conseillez plus chaudement, Alexis, le docu-fiction la voix de Inge Rajab.
Oui, la réalisatrice tunisienne Kaouter Benania, césarisée l'an dernier pour Les filles d'Olfa, construit son nouveau film autour de l'enregistrement audio d'une petite fille palestinienne bloquée dans une voiture à Gaza au milieu des cadavres de ses proches après une attaque de l'armée israélienne. Lion d'argent lors du dernier festival de Venise, ce film coup de poing retrace avec des acteurs mais avec la vraie voix de Inge Rajab les quelques heures lors desquelles les secouristes du Croissant Rouge ont tenté de sauver la fillette de 6 ans. Coproduite par Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Jonathan Glazer, la voix de Inge Rajab est une œuvre évidemment poignante.
La voix de Inge Rajab à voir donc à partir de ce mercredi. On termine par un rapide tour d'horizon des autres sorties de la semaine.
Il y a Bugonia, la nouvelle comédie grinçante de Yorgos Lanthimos, toujours avec sa grande complice Emma Stone. Je n'avais que le néant, un documentaire de Guillaume Ribault sur la conception du chef-d'œuvre Shoah de Claude Lanzmann. Et Room Temperature, un film d'horreur américain qui sort peut-être un poil tard, puisque l'action se déroule pendant la fête d'Halloween.
Merci Alexis Demeyer du service culture de France Inter. Je profite de votre présence pour dire un mot de la pépite d'or qui récompense le meilleur ouvrage jeunesse de l'année, puisque vous faites partie du jury, Alexis, et qui revient cette année à la jeune autrice Adèle Maury pour sa bande dessinée Béryl en bataille, édité chez Sarbacane. Prix décerné à l'occasion du salon du livre jeunesse qui ouvre ses portes aujourd'hui à Montreuil et que vous nous conseillez de lire au cours des prochaines semaines. Et puis eux aussi espèrent à bien finir lauréat de leur compétition. Les Parisiens, en quête d'une nouvelle victoire en Ligue des Champions, reçoivent ce soir les Anglais de Tottenham. Le PSG va tenter de faire oublier sa cuisante défaite face au Bayern de Munich. Peut-être grâce au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé qui est de retour après plusieurs semaines d'absence. Match au Parc des Princes. Ce sera ce soir à partir de 21h, 13h26. Restez avec nous sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, les prévisions météo de Céline Dacosta qui va nous annoncer sans doute encore pas mal de froid. Et ça tombe bien parce qu'on va parler aussi des marchés de Noël avec nos invités de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquentés. Pourquoi ça cartonne et pourquoi ça pose problème aussi dans les communes qui voient soudain déferler des foules de visiteurs. La maire de Mulhouse est avec nous, tout comme le dirigeant d'une société de marché de Noël. Il en crée un peu partout en France. On attend vos questions. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Notre feuilleton une semaine dans leur vie, dans les coulisses de la fabrication des clarinettes, puisque le plus grand atelier du monde se trouve dans les Yvelines et on va tester les instruments dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France et c'est avec vous, Eric Fotorino. Bonjour.
Bonjour Céline.
Du 1 Hebdo. Eric, vous vous interrogez aujourd'hui sur l'imaginaire lié au service militaire.
Et oui Céline, alors que la guerre a du mal à finir en Ukraine et que les plus hauts gradés du pays préparent les esprits à un possible conflit armé avec la Russie, je reviens sur cette conscription suspendue mais non supprimée en 2001 sous la présidence Chirac.
Et puis la carte blanche de Stéphane Escher qui choisit aujourd'hui Robert Charlebois, avec qui il avait eu l'occasion de chanter sur scène lors d'un festival.
Robert Charlebois est descendu de la scène et j'ai dit « Mais Robert, s'il vous plaît ». Et il a dit « Oui, je sais que tu chantes la chanson, on va le faire ensemble » et on commence à chanter. Je reviendrai à Montréal.
Et c'est une chanson qu'il revisite pour les auditeurs de France Inter. Vous verrez, c'est très joli. Et ce sera juste avant 14h. À tout de suite.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mercredi, je vous raconte l'histoire du président Deschanel, retrouvé en pyjama sur la voie ferrée en mai 1920, un président réduit injustement à sa chute d'un train.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur France Inter.
On a beau dire, Omiris, question alarme et télésurveillance, chapeau.
Et à ce prix-là, matériel, maintenance, agent de sécurité et appel aux forces de l'ordre, tout est compris.
Mais alors, tout le monde va s'équiper ?
Ça, avec Omiris, on n'a pas fini de courir.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
Tout de suite, la météo.
La météo avec Bleu-Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu-Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et ce mercredi, c'est un peu une journée de transition, on va dire.
Oui, c'est ça, avec un ciel encore nuageux, une limite pluie-neige très basse en montagne sur l'est du pays. Donc la limite pluie-neige autour de 500-600 mètres en moyenne, des averses neigeuses qui sont assez faibles, mais on a déjà une bonne couche au sol, notamment sur les Savoies, souvent 1 mètre au-dessus de 1500 mètres, ce qui est une bonne nouvelle à l'approche de l'ouverture des domaines skiables. On a toujours un ciel dégagé près de la Méditerranée, grâce au vent qui souffle fort encore, du Mistral, de la Tramontane jusqu'à 90, voire 100 km à l'heure en rafale. Des éclaircies également sur toute la moitié ouest jusqu'en Île-de-France cet après-midi. Et puis, une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera par la pointe bretonne en fin de journée. Et là, on a déjà pas mal de nuages sur ce secteur.
Et du côté des températures, ça donne quoi?
C'est frisqué, un petit peu juste pour la saison, hein, 2 degrés sous les normales, surtout à l'est, où la moyenne va cet après-midi de 4 à 8 degrés, 8 à 12 plus à l'ouest. Et c'est plus doux également sous le soleil près de la Méditerranée, avec une moyenne qui est aussi de 11 à 16 degrés, 16 degrés pour Nice et Toulon.
Merci Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Des chalets en bois, du vin chaud, du pain d'épices et des santons pour décorer la crèche. Pendant très longtemps, on a associé les marchés de Noël à l'est de la France, à la culture germanique. Strasbourg, le plus ancien, ouvre ses portes aujourd'hui. On peut également citer Colmar ou encore Ribeauvillé. Mais depuis quelques années, eh bien, on en trouve partout des marchés de Noël et les visiteurs se pressent de plus en plus nombreux. On va tenter de comprendre pourquoi avec nos invités et quels soucis aussi ça peut poser. Bonjour Thibaut Delourme.
Bonjour.
Vous êtes président de l'entreprise 2A Organisation, qui est une entreprise familiale basée à Nantes et spécialiste justement des marchés de Noël. Bienvenue. Et bonjour à vous, Michel Lutz.
Bonjour.
Vous êtes, vous, la maire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, qui a aussi, bien sûr, son marché de Noël, qui est ouvert déjà, hein, ouvert depuis quelques jours.
Absolument. Nous l'avons inauguré le 21 novembre.
Mmh. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde ?
Absolument, je confirme. À part hier où nous avions un épisode de pluie qui ralentit un peu les choses, nous avons déjà énormément de visiteurs.
Et l'année dernière, je crois, 1 380 000 visiteurs pendant le mois, c'était déjà un chiffre en hausse.
Ah oui, c'est un chiffre qui est continuellement en hausse et évidemment, nous sommes fixés un challenge cette année. Il faut que nous dépassions le 1,5 million de visiteurs.
Ah. Et le pic de fréquentation, c'est plutôt quand, Madame Lutz ?
Oh ben le pic de fréquentation viendra au moment où effectivement on se rapprochera des jours de Noël. Hein. On va dire à partir du 20 décembre, là vraiment on a tous les pics. Maintenant, ceci dit, tant que les gens sont en activité et travaillent, ils aiment bien terminer leur journée de travail au marché de Noël à Mulhouse.
J'imagine que c'est une bonne affaire pour les hôteliers de Mulhouse, pour les commerçants aussi.
Oui, bien sûr, on a toujours ce regard-là et pour nous, c'est important d'avoir cette dynamique économique au niveau du centre-ville. Alors, les hôtels sont pleins. On nous dit qu'effectivement, il est difficile de trouver des chambres encore. Et en même temps, bien sûr, nos commerçants, puisque le marché de Noël est au centre sur une place qui s'appelle la place de la Réunion et qui est vraiment le centre, le cœur battant du commerce mulhousien.
Bon, la dynamique est là. On va parler des soucis qui vont peut-être avec dans un instant. D'abord, un mot avec vous, Thibaut Delourme. Est-ce que c'est un succès, Mulhouse, Strasbourg et les autres, qui vous a inspiré? Vous vous êtes dit finalement pourquoi ne pas ouvrir le marché de Noël ailleurs?
Bah effectivement, alors c'était ma maman qui avait eu cette idée-là dans les années 2000, donc autour des années 98 pour être précis. Et effectivement, il n'y avait pas de marché de Noël dans l'ouest de la France. Et donc ma maman, il y a plus de 25 ans maintenant, a créé le marché de Noël de Nantes. Et puis depuis, on a remporté l'organisation de nombreux marchés de Noël dans l'ouest et jusqu'à Paris et à Annecy aussi, parce qu'on vient de remporter cet appel d'offres cette année.
Comment ça se passe justement? C'est les mairies qui se disent « Tiens, nous aussi, on voudrait un marché de Noël parce que c'est bon pour les hôteliers, les commerçants. » comme on le voit à Mulhouse, et puis qui vous contacte ?
Alors, au début, c'était beaucoup ça, hein, il y a 25 ans, c'était « il n'y en a pas, donc il faut en créer ». Et aujourd'hui, c'est plutôt différent, c'est que les marchés de Noël se sont énormément professionnalisés, et c'est des événements qui attirent beaucoup de public. Nous, l'année dernière, à Paris La Défense, on a accueilli 1,5 million visiteurs. Depuis notre ouverture, on est plutôt sur une fréquentation en hausse de 100%, donc on accueille deux fois plus de visiteurs que l'année dernière comparativement à l'année précédente. Donc c'est vraiment des chiffres très très forts. Et effectivement, accueillir beaucoup de public relève aussi d'un défi logistique et organisationnel qu'il faut savoir gérer. Et donc ça, cette technicité fait aussi que les municipalités ont besoin de faire appel à des professionnels. Mais par rapport à ça.
Quand on imagine les chalets en bois au pied des tours de la Défense, on se dit que c'est pas les maisons à colombages et la cathédrale de Strasbourg. Pourquoi ça marche finalement, Thibault Lelong?
Je pense qu'on a vraiment eu des années récemment qui ont été vraiment des années complexes. On a connu crise après crise, tous les ans des crises, et finalement Noël incarne une Madeleine de Proust, un doudou, quelque chose qui nous rappelle notre enfance ou des moments où on se sent bien, en sécurité, en famille, entre amis. Et effectivement, je crois qu'on a besoin de retrouver cette féerie et cette sérénité dans un moment où on voit que la politique est complexe, on voit que le contexte extérieur aussi. Et donc ça nous ramène à nos fondamentaux. Et je crois que c'est ça qui fait que ça fonctionne très très bien. Il y a aussi le côté intergénérationnel, c'est de transmettre à nos enfants ce que nous, on a pu connaître comme bonheur dans notre enfance. Et donc ça aussi, ça fonctionne très très bien.
Michel Lutz, je crois que le marché de Mulhouse, il est plus ancien que celui d'Annecy ou de Boulogne-Billancourt, mais pas si ancien que ça, une trentaine d'années.
Oui, c'est la 35e édition cette année.
Et l'idée, c'était là aussi de se dire les gens ont besoin de moments pour se rassembler, ou est-ce que c'était vraiment des considérations économiques qui ont prévalu?
Alors, il y a plusieurs choses. Vous savez, le marché de Noël, et vous avez évoqué Strasbourg, bien sûr, les villes alsaciennes aussi. Nous avons une particularité aussi à Mulhouse, et c'est le récit de l'histoire de Mulhouse, le récit industriel. Nous éditons tous les ans une étoffe de Noël. Donc, quand ce marché a été créé, effectivement, il fallait penser à tout ce côté réconfortant, et ça, nous l'avons, et ce monsieur l'a très bien dit, à travers tous les stands en termes de gastronomie, d'alimentation, à travers des objets également. Mais ce qui est essentiel à Mulhouse, c'est l'étoffe de Noël. C'est attendu, les gens qui connaissent cette étoffe, puisqu'il y a une nouvelle édition tous les ans avec une créatrice, Marie-Jo Gébel, cette année pour Mulhouse, eh bien, c'est aussi un attendu par rapport à l'histoire de la ville. Je croyais que vous alliez m'interrompre, c'est pour ça.
On vous laisse poursuivre, Michel Lutz, je vous écoute, bien sûr.
Effectivement, c'est un attendu, donc les gens, ces tissus sont collecteurs, les gens viennent tous les ans aussi de très très loin, pour pouvoir acheter cette étoffe de Noël qui est éditée, je le rappelle, tous les ans.
Alors, effectivement, quand on regarde la présentation de votre marché à Mulhouse, vous insistez beaucoup sur les traditions rhénanes, sur le fait qu'on va trouver des bretzels, par exemple, dans les chalets en bois du marché de Noël. Est-ce que c'est aussi la nécessité, Thibault Delorme, de dire, voilà, on les crée un peu ex nihilo, ces marchés de Noël, mais il faut trouver quand même un moyen de leur donner un peu d'authenticité?
Alors oui, et puis je crois que ce côté culturel local, il est très important puisque, en fait, finalement, chaque ville et chaque habitant de chaque ville est fier de son territoire en général et a envie de retrouver sur chaque marché de Noël ce qui fait l'identité de son marché de Noël. Donc, par exemple, à Angers, on va trouver les Carnons d'Ardoise, on va retrouver Cointreau, on va retrouver tous les commerçants ou les commerces qui font l'identité d'une ville. Et je crois que ça séduit énormément le public, ce qui fait que, et c'est ce qu'on voit qui se développe aussi dans le développement des marchés de Noël et l'Est de la France en fait partie, c'est qu'on a beaucoup de tourisme où on passe de marché de Noël en marché de Noël pour un peu aller découvrir plusieurs marchés de Noël, plusieurs ambiances, plusieurs territoires. Et donc, je crois que ça aussi, ça fonctionne. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour le coup.
Mais j'en viens à cette question justement de Françoise à ce sujet, de Françoise de l'Aveyron sur l'appli Radio France, qui dit, voilà, il y a beaucoup de marchés de Noël qui se chevauchent. On a du mal peut-être à s'y retrouver. Elle dit, j'aimerais bien identifier le secteur des artisans locaux, les personnes qui sont commerçants. Finalement, c'est vrai qu'on se balade, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, Thibault Delorme.
Je crois que c'est aussi une des attentes du public, c'est quand on vient pour un marché de Noël, on veut aussi de la surprise et donc ne pas savoir exactement quel va être le contenu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va retrouver le centenier, on sait qu'on va retrouver du vin chaud, on sait qu'on va retrouver de la tartiflette, on sait qu'on va retrouver différents types de gastronomie régionale. Mais effectivement, il faut aussi de la surprise parce qu'on vient chercher des idées cadeaux, des idées qu'on n'aurait pas eues soi-même sans venir sur un marché de Noël. Et aussi, je rappelle que la plupart des marchés de Noël en France sont gratuits, donc on vient aussi rêver et profiter des illuminations.
Comment on s'assure, Michel Lutz, qu'il n'y a pas trop de produits made in China, par exemple, dans les chalets en bois du marché de Noël de Mulhouse ?
Eh bien, nous sommes très rigoureux. C'est-à-dire que dès qu'un commerçant, alors que ce soit un commerçant local qui a déjà une échoppe à Mulhouse ou aux alentours, ou de nouveaux commerçants, nous sommes très rigoureux. Nous privilégions d'abord les produits bien évidemment locaux, mais également tous les produits fabriqués à minima en France. L'Europe, si vraiment on ne trouve pas le produit en France, mais nous avons fait ce travail depuis de très longues années, parce que nous voulons vraiment un marché de Noël authentique qui répond aussi à tous ces critères qu'attendent de nous les gens qui viennent effectivement et se déplacent pour voir le marché de Noël à Mulhouse.
Thibaut Delhomme, ça veut dire concrètement que c'est vous qui sélectionnez les commerçants, c'est les mairies ensuite, une fois que vous avez, vous, installé les chalets ?
Alors ça dépend de chaque municipalité, on a des comités de sélection, des candidatures qu'on reçoit, et effectivement dans chaque ville, il y a un process qui est différent, avec parfois la mairie, parfois plus de liberté à l'organisateur, donc là ça nous revient. Mais en général, dans les décisions, les élus de la ville sont souvent très présents pour vérifier qu'on applique bien les critères qui sont importants pour une municipalité. Et là aussi, je voudrais dire, on a souffert pendant quelques années d'une image des marchés de Noël qui était complètement erronée. En tout cas, on redécouvre aujourd'hui la réalité de ce que sont réellement les marchés de Noël. Et effectivement, ils sont beaucoup plus qualitatifs en termes d'offres produits que ce qu'on a pu laisser entendre à de nombreuses années.
Mais même quand ils grandissent autant, vous dites plus 100% par exemple sur celui de la Défense, comment on peut s'assurer vraiment qu'on est dans l'authenticité, l'esprit de Noël partout, dans toutes les boutiques qui sont proposées?
Je pense qu'il faut du pragmatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés de Noël, ils reflètent aussi la réalité de ce qu'est la consommation. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout peut être fabriqué en France. Il y a des produits qui sont nécessaires et qui sont fabriqués exclusivement à l'étranger. Et là-dessus, on n'a pas d'autre solution. Par contre, effectivement, quand on parle de Santon, on peut pas se dire qu'ils sont pas fabriqués ailleurs qu'en Provence. Et donc ça, effectivement, on vient le vérifier, on vient le contrôler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artisanat sur les marchés de Noël que ce qu'on pourrait laisser penser parfois dans l'idée préconçue. Et c'est pour ça que les marchés de Noël fonctionnent, parce qu'on répond aux attentes des visiteurs, et que les visiteurs constatent par leur visite que les marchés de Noël sont beaucoup plus qualitatifs que ce qui a pu être le cas peut-être dans les années 90. Donc aujourd'hui, la sélection, elle est très très importante, et je crois que la ville de Mulhouse fait un travail incroyable, de même que nous sur tous nos marchés de Noël, et globalement tout le secteur s'organise de cette façon.
Alors souvent, on est fier de son marché de Noël quand on habite une ville qui y en accueille un. Parfois, on est un petit peu embêté justement par ces chalets en bois qui restent, pas une journée ou deux, mais un mois. Souvent, quand on est commerçant, on y voit aussi parfois une concurrence. Écoutez par exemple cette libraire qui est située dans le centre-ville de Strasbourg, au micro de nos confrères d'ici Alsace.
C'est beaucoup, beaucoup plus de monde, évidemment, pour ceux qui sont sur le chemin du marché de Noël, en tout cas. Beaucoup de touristes. On voit effectivement nos habitués décaler, on va dire, leur tranche horaire de visite. Mais c'est vrai que le vendredi, samedi, on voit beaucoup de touristes et un peu moins nos habitués. Je pense qu'il va falloir se poser un jour la question de quand est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on y est déjà? Peut-être, je ne sais pas, c'est pas à moi de dire ça. Mais je pense qu'il va falloir rapidement se poser la question.
Est-ce que vous avez aussi cette difficulté, Michel Lutz, chez vous, lorsqu'on vise 1,5 million de visiteurs en un mois? Est-ce que ça crée des petits problèmes de logistique ou de concurrence?
Alors, je dirais a priori non, puisque nous travaillons énormément avec les associations de commerçants. Nous avons aussi, je parlais tout à l'heure de la rigueur pour la sélection aussi des commerçants qui viendront au marché de Noël. Évidemment, on va pas se créer notre propre concurrence non plus par rapport aux commerçants sédentaires toute l'année. Donc tout ça, c'est un jeu subtil. Et monsieur l'a dit, nous, en tant que municipalité, nous travaillons énormément avec les associations pour trouver aussi un consensus pour faire en sorte que les gens viennent pour le marché de Noël, pour certains produits, mais continue à se fournir et à fréquenter, bien sûr, les commerces du centre-ville.
Est-ce que ça coûte cher à une ville comme Mulhouse, Michel Lutz? Je vous pose la question parce qu'il y a Aurélie sur l'appli Radio France qui nous demande il n'est pas question aussi de gâchis d'argent public avec l'organisation de ces marchés de Noël.
Eh ben, écoutez, moi, je vous dirais que non, puisque c'est quelque chose qui est fortement attendu. On nous a jamais fait une remarque dans ce sens-là. Par contre, si on prend la période, par exemple, d'après Covid, que nous avons dû gérer, où nous avions réduit un petit peu, je dirais, le nombre de chalets pour des raisons, effectivement, encore d'obligations de distanciation et des choses comme ça, en général, les gens étaient plutôt déçus parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait moins de chalets. Cette année-là, nous avions 89 chalets, nous en avons 103 à l'heure actuelle. Et les gens nous ont plutôt fait la remarque dans le sens, mais il nous faut de nouveau tous ces chalets. Mmh. Donc, je pense que, voilà, tout un chacun, chaque citoyen est content, et ce monsieur l'a dit très exactement, est content de retrouver cette ambiance de Noël. Enfin, quand on voit ce qui se passe au niveau national, je crois que tout le monde a besoin de cette magie de Noël, je dirais. Et puis, en ce qui concerne l'argent public, en ce qui me concerne moi, on ne m'a jamais fait cette remarque. Mmh. Au contraire, quand nous n'étions pas à cette hauteur de ce que nous sommes actuellement et cette année à Mulhouse, là, on m'avait fait la remarque que ça manquait.
Thibaut Delhomme, la magie de Noël, certes, mais est-ce que ça coûte cher ?
Ça coûte forcément cher d'organiser un marché de Noël puisqu'il y a toute la logistique, il faut monter les chalets, il faut sécuriser le marché de Noël, il faut ramener de l'électricité, c'est créer une ville dans la ville. Hein,
organiser on parle de quoi, de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros.
Pour un commerçant, vous voulez dire, oui, on parle entre nous, ça a commencé à 3 500 euros et ça peut aller jusqu'à 12 000 euros. Après, ça dépend de la taille, ça dépend de plein de critères qui font que, voilà, après le commerçant choisit des options ou en tout cas différents. Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, tous nos marchés de Noël sont complets, donc il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur la rentabilité ou en tout cas la capacité à générer, on va dire, du chiffre d'affaires pour les commerçants. Et je crois aussi, il faut le rappeler, que c'est plutôt de l'argent qui va profiter à tout le commerce de centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, un marché de Noël, c'est un vecteur d'attractivité. Mmh. Et sans marché de Noël, on aurait des centres-villes qui seraient beaucoup moins fréquentés. Et donc, ça se répercute sur l'hôtellerie, ça se répercute sur la restauration, parce qu'il y a des gens qui préfèrent manger au chaud et assis dans un restaurant. Ça se répercute sur les achats dans le centre-ville. Et à l'heure où on parle d'acheter des livres sur Amazon, notamment, je crois que l'opportunité d'aller acheter un livre physiquement dans une librairie est renforcée quand on trouve une bonne raison de venir dans un centre-ville.
Quelles sont les prochaines villes qui vont ouvrir leur marché de Noël ? Vous êtes déjà en négociation pour l'année prochaine, j'imagine.
Alors, pour l'instant, il y a une grande étape qui est quand même les élections municipales. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun horizon qui est tracé pour nous. Nous, on a des marchés de Noël qui vont ouvrir. On a aujourd'hui Boulogne-Billancourt qui vient d'ouvrir. On a demain la ville d'Angers qui va ouvrir son marché de Noël. Et puis après, on a Annecy qui va ouvrir samedi. Donc là, c'est nos prochaines étapes pour cette année. Et puis après, pour l'année prochaine, on va attendre. Voilà, s'il y a des appels d'offres, on y répondra, bien entendu.
On se projette déjà sur l'année prochaine, Michel Lutz. Ou pas encore ?
Bien évidemment, c'est pas. Vous savez, j'ai pour coutume de dire, quelle que soit la configuration, la vie ne va pas s'arrêter. Mmh. Et quand on prépare un marché de Noël, on le prépare dès le mois de janvier pour le Noël d'après. Donc oui, la vie va continuer. Nous projetterons sur ce marché de Noël. Après, le reste est une autre histoire. Laissons les élections aussi dans leur temps de l'élection.
On en profite de ce marché de Noël. Mulhouse, c'est ouvert jusqu'à quelle date ?
Nous sommes ouverts jusqu'au 27 décembre inclus.
Bon ben voilà, l'appel est lancé pour ceux qui voudraient y passer, dans celui de Mulhouse ou tous les autres que vous gérez. Thibaut Delhomme, merci à tous les deux. Michel Lutz, Thibaut Delhomme, d'avoir participé à cet échange dans le studio du 13-14 de France Inter. Tout de suite, le feuilleton. Et c'est une entreprise unique en son genre que l'on visite tout au long de la semaine. L'entreprise Buffet Crampon, leader mondial de la fabrication des clarinettes, qui fête cette année ses 200 ans. Elle est située dans les Yvelines à Magnanville. Alors hier, on a visité ensemble l'atelier de finissage où les instruments sont assemblés. Il faut maintenant les tester. Et ça se passe avec Jean-François Marissal. C'est l'un des essayeurs officiels de l'entreprise.
Alors ça, c'est une clarinette mi bémol, c'est une petite clarinette qui fait des sons assez aigus. Donc je fais un contrôle de justesse avec l'accordeur. Voilà, donc tout est conforme au niveau de la justesse, il n'y a pas de problème d'intonation. Jean-François Marissal, j'essaye les clarinettes. Ici, on va contrôler que tout est conforme aux standards demandés. Et puis, effectivement, s'il y a des retouches, on les donne aux collègues et après, on les ressouffle.
Vous l'avez vu sur une machine que vous allumez. Oui. C'est quoi cette machine ?
Alors, ça s'appelle un stroboscope. Donc, c'est un accordeur qui m'indique avec précision la justesse de chaque note.
À part la justesse, qu'est-ce qu'il faut voir ?
La mécanique de l'instrument, sentir si l'instrument est confortable, même sans faire de son. Ça doit être agréable au toucher. Voilà, on entend juste le bruit des tampons. Voilà, s'assurer aussi, bah, par exemple, au niveau mécanique, que la hauteur des clés est aussi homogène. Et puis après, bah, par exemple, pour ce type d'instrument, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut tourner le pavillon d'un quart de tour et ça change un petit peu l'émission du son.
Par exemple, on peut essayer, voilà. Voir si moi, j'entends une différence. Alors, moi, je ne vois pas la différence, mais vous l'entendez.
Moi, je préférais la première position où le son il était un peu plus fluide. Ouais. Et donc, une fois qu'on a trouvé quelle était la bonne position, on met un petit peu de papier à crayon sur le pavillon. Et ensuite, il y aura le logo qui sera marqué à l'endroit précis où est le trait. C'est-à-dire le clarinettiste, quand il emboîte l'instrument, les différentes parties de l'instrument, il positionne les logos dans le même axe. Et effectivement, il y a une importance. Ouais.
Vous êtes vraiment au milieu de l'usine. On voit les collègues en train de travailler les clarinettes à côté.
Oui, bah c'est sûr que déjà, c'est un côté pratique. Hein, quand on a des retouches, c'est agréable aussi de voir les différents postes de travail et puis de voir toujours toutes ces clarinettes disposées dans des positions différentes. Et quand elle brille, c'est encore plus joli. Voilà, donc. Bah, on fait le maximum toujours pour que l'instrument soit au mieux. Et c'est vrai qu'après, c'est aussi un plaisir que de savoir que, quel que soit le musicien d'ailleurs, que la personne soit contente. Voilà, comme moi j'ai pu l'être quand j'ai soufflé la première fois dans ma clarinette Buffet Crampon. Ouais. J'avais une dizaine d'années. Ouais.
Vous êtes payé pour jouer de la clarinette, quand même, qui est votre passion. C'est
oui,
pas mal.
Mais oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une chance, exactement, de pouvoir vivre de sa passion. Ouais. C'est toujours un plaisir que de souffler dans ses instruments tous les jours. Quoi. Le fait de fabriquer des sons, c'est un régal. Ouais. Et on se lasse pas.
Dans la fabrique des clarinettes, la suite demain de ce feuilleton signé Ajra Mohamed.
France Inter. Le 13-14.
16h50, c'est la France. Et le mercredi, on retrouve le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Et aujourd'hui, Éric, on reparle du service militaire avec des accents d'inquiétude. Pourquoi ?
Oui, comme toujours, Céline, un texte ne va pas sans son contexte. Quand le bon vieux service militaire, celui des copains de régiment et des Russes pour se faire réformer, qu'employaient bien des jeunes, moi compris, je l'avoue, fut suspendu sous Jacques Chirac en 2001, nous vivions dans la tranquillité d'une paix qui semblait devoir durer toujours, tout au moins en Europe, même si la guerre de Bosnie et les massacres de Sarajevo avaient rappelé des échos funestes. Mais ces derniers temps, guerre en Ukraine et tensions internationales obligent, le paysage a bien changé. La petite musique militaire a commencé à s'insinuer l'été dernier, lorsque l'ancien chef d'état-major des armées, le général Thierry Bucart, à la veille précisément de son adieu aux armes, prononça cette phrase « On doit se préparer à une guerre de haute intensité, car c'est la meilleure solution pour l'éviter ». Il citait la Russie, qui aurait fait de notre pays sa cible prioritaire, illustration de la fameuse maxime puisée dans le traité d'art militaire d'un auteur chrétien nommé Végès au IVe siècle, « Civis pacem, parabellum », autrement dit, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Et il y a quelques jours, c'est son successeur, hein, le général Fabien Mandon, qui a ravivé les inquiétudes lors d'un discours devant le congrès des maires de France. Il a déclaré que la France devait accepter de perdre ses enfants. Oui. Propos, Éric, encore plus alarmant.
Oui, alors que le président Macron parle d'un ogre à nos portes, il faut surtout y voir un appel à ce que ce haut gradé appelle notre force d'âme. Une mobilisation qui va au-delà des seuls militaires, mais passe par le sursaut moral d'une nation prête non pas à sacrifier les siens, mais à souffrir. Et bien sûr, l'idée d'un retour au service militaire participe de cette remobilisation, même si le chef de l'État a aussitôt précisé qu'il ne s'agissait pas d'envoyer de jeunes conscrits en Ukraine, mais d'une formation de moins d'un an sur la base du volontariat.
Et ça vous rappelle des souvenirs ?
Évidemment, Céline, qui dit service militaire dit souvenirs et copains de régiment avec les fameux 3 jours à Limoges, à Cambrai ou à Tarascon, où des jeunes de tous horizons se retrouvaient pour passer les tests physiques et intellectuels avant de partir sous les drapeaux. Un brassage social qui a laissé des regrets à certains, teinté d'un certain vilirisme. On devenait un homme si on avait fait son service. À l'armée, on pouvait voir du pays, se faire des amis, passer son permis poids lourd, se dégourdir, ne plus avoir deux mains gauche, comme on disait. Mais le service, en temps de paix, n'était pas toujours une sinécure. Les fortes têtes pouvaient se retrouver dans les commandos disciplinaires. D'autres tentaient de se planquer ou de se faire réformer, car la quille, au bout d'un an, c'était trop long. Alors Céline, surtout, ne pleurez pas et ne soyez pas déçue en découvrant que je n'ai jamais appris le maniement d'un fusil, ayant été exemptée pour ne pas interrompre mes études. Mes armes, je les ai faites dans un journal, comme stagiaire à Libération, petit soldat de l'information.
Et on apprend beaucoup de choses aussi dans ce genre de stage. Merci Eric, un mot du menu du 1 Hebdo cette semaine.
Oui, pourquoi aimons-nous tant acheter la fièvre acheteuse? Nous nous penchons sur les raisons de la surconsommation, perçue comme une forme de liberté plutôt que d'aliénation. Nous interrogeons les notions de déconsommation, de superflu, du suffisant, et publions une incroyable leçon de marketing signée Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, paru en 1928.
Eric Fotorino du 1 Hebdo, de C'est la France à C'est une chanson. Et vous savez que c'est Stéphane Escher qui nous accompagne tout au long de la semaine pour nous partager ses coups de cœur musicaux. Et c'est au Québec qu'il nous emmène aujourd'hui.
Bonjour, c'est Stéphane Escher. Quel plaisir de passer la semaine avec vous. Aujourd'hui, je vous parle de Robert Charlebois.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer.
J'étais un écolier difficile. Et à 14 ans, on m'a mis à l'école d'humanité. Et je suis arrivé là-haut et il y a eu Franck qui était le professeur de français. Et Franck voulait nous amener le français à travers la musique. Et il y a eu cette chanson de Charlebois, « Je reviendrai à Montréal », une promenade vers la mélancolie. J'ai compris les paroles.
J'ai besoin de cette lumière.
Et je les trouve sublimes.
Descendu droit du Labrador. Et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or.
Et j'ai commencé à faire cette chanson dans les répètes, dans les soundchecks pour mettre la sono, tout ça. Mais bientôt, je l'ai simplifiée. Je fais beaucoup plus simple que le maître. On saute maintenant 45 ans. Et je suis au Paléo Festival, c'est un grand festival en Suisse romande, et je joue à 19h-20h avec le Traktorchester sur la grande scène, et les organisateurs viennent me voir, ils disent on a un grand problème, le groupe suivant, Chaka Punk, ne peut pas jouer, la chanteuse a perdu la voix, et dit maintenant tu as 2 heures d'imaginer un deuxième spectacle que tu joues à 11h jusqu'à 1h le matin. Dans la pause, je suis allé au microphone et je demandais au public s'il y a des gens qui adorent chanter pour former une chorale. C'était, je crois, 100 personnes qui se sont présentées. Et on m'a dit, il y a une soirée canadienne. J'ai dit, oh! Et puis, Robert Charlebois est descendu de la scène. Et j'ai dit, mais Robert, s'il vous plaît. Et il a dit, oui, je sais que tu chantes la chanson, on va le faire ensemble et on commence à chanter. Je reviendrai à Montréal. Là, je suis juste. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir maintenant d'essayer de corriger mes grosses fautes de cette sublime chanson, une des plus belles en français pour moi. Je reviendrai à Montréal. Écoute. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière. Descend du droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange.
entre le cristal et le verre, où viennent se poser les anges. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Roman Novka.
Je reviendrai à Montréal, joliment revisité par Stéphane Escher, que l'on va retrouver évidemment demain dans le 13-14 pour un nouveau coup de cœur musical. Dans un instant, les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? Question au cœur de l'émission Le Fil de l'Histoire avec Stéphanie Duncan et avec son invité, l'historien Vincent Azoulay. À tout de suite.